C'est fou d'imaginer une carte du monde qui, au lieu de tracer des frontières physiques ou des montagnes, cartographierait méticuleusement les rancunes familiales, les trahisons du passé et même les guerres à venir.
Ouais, c'est pas du tout l'idée qu'on se fait d'une carte aujourd'hui, ça c'est sûr.
Absolument pas. Et pourtant, c'est exactement ce qui se cache derrière ce qui semble être la partie la plus, disons, aride d'un texte antique, une généalogie. Je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle exploration aujourd'hui, parce qu'au premier abord, lire ces listes de noms, c'est un peu comme parcourir un vieil annuaire téléphonique dans une langue morte. L'instinct premier, c'est tourner la page.
Ben oui, l'attente moderne, c'est souvent celle d'une simple bureaucratie d'archives, quoi. On lit des noms, on s'ennuie vite, et on a juste envie de passer à l'action. Sauf que, dans la littérature du Proche-Orient ancien, c'est jamais juste une archive.
C'est ça. Et quand on plonge dans les textes de la Genèse, particulièrement dans cette fameuse section qui couvre les chapitres 9 à 11, cet annuaire téléphonique, il se transforme en un paysage narratif d'une densité incroyable. Et c'est justement toute la mission de notre plongée d'aujourd'hui.
Je suis prêt. Et on va s'appuyer sur du solide pour ça.
Tout à fait. On va décoder ce texte historique et théologique en se basant exclusivement sur l'analyse vraiment passionnante du docteur Kenneth Matthews tirée de sa 9e session sur la Genèse. Le but, c'est d'extraire la richesse littéraire et géopolitique cachée derrière ces lignées pour comprendre en fait la mécanique qui mène au célèbre récit de la Tour de Babel.
C'est un programme chargé. Et je pense qu'il faut préciser d'emblée un truc important.
Vas-y.
Notre démarche ici, c'est vraiment d'observer l'architecture de ce récit de manière totalement impartiale. On va analyser l'interprétation théologique et morale que le texte source propose, sans prendre parti. L'idée, c'est simplement de saisir ce que l'auteur antique voulait transmettre à son public.
C'est clair, c'est vraiment la meilleure approche face à un texte littéraire aussi stratifié. Faut comprendre l'outil avant de juger l'œuvre. L'auteur antique ne listait pas des noms juste pour gaspiller du parchemin coûteux. Il codait un message politique très spécifique.
Exactement. Et pour comprendre comment ce monde antique s'est divisé, l'analyse du docteur Matthews souligne qu'il faut absolument revenir au point de départ post-déluge.
Revenir à Noé.
Voilà, Noé. Mais attention, l'auteur ne le présente pas juste comme un gars chanceux qui s'extirpe d'un bateau. Il le positionne littéralement comme une réinitialisation du système. Un nouvel Adam, en quelque sorte.
Ah ouais, le parallèle est super frappant quand on y regarde de près. Tout comme le premier Adam, Noé est décrit au chapitre 9 comme un homme de la terre, un cultivateur. Le mandat divin est le même, repartir de zéro, multiplier, remplir la terre. Et là, le texte s'attarde sur un détail hyper précis.
Il plante une vigne.
C'est ça, il devient le pionnier de la viticulture. Et je trouve ça fascinant parce que ce détail prend tout son sens quand on le met en contraste avec d'autres mythes de l'époque, non ?
Ah ben totalement. Dans les cultures voisines du Proche-Orient, le vin, l'agriculture complexe, tout ce qui fonde la civilisation, c'est vu comme des cadeaux magiques, des choses tombées du ciel offertes directement par les dieux sur un plateau d'argent.
Alors que dans la Genèse, c'est purement le fruit de la sueur humaine. Le texte insiste vachement sur le fait que le vignoble, c'est une création de l'ingéniosité humaine. C'est l'homme qui innove.
C'est le triomphe de la technique, ouais. L'homme transforme la nature par lui-même. Sauf que, et c'est là que le bât blesse, cette même ingéniosité, elle porte en elle les germes de sa propre chute.
Le fameux dérapage. L'innovation se retourne contre l'innovateur. Noé consomme le produit de son propre travail technique. Il s'enivre. Il perd complètement le contrôle et se retrouve nu et vulnérable dans sa tente.
Et c'est là qu'éclate ce drame familial aux proportions, disons, monumentales.
Ouais, Cham, le père de Canaan, entre dans la tente, voit son père dans cet état de vulnérabilité, et au lieu de l'aider, il se moque de lui et sort pour faire des commérages à ses frères.
Et il faut bien comprendre que, dans le contexte culturel de l'Antiquité, c'est pas juste une mauvaise blague d'adolescent. C'est une subversion totale de l'autorité patriarcale, quoi. C'est un acte de déshonneur profond qui fracture l'ordre social qui, on le rappelle, vient tout juste d'être réinitialisé.
C'est vrai. Et à l'inverse, la réaction des deux autres fils, Sem et Japhet, restaure cet ordre. Ils prennent un vêtement, ils marchent à reculons pour être sûrs de ne pas regarder la nudité de leur père, donc de ne pas le déshonorer davantage, et ils le couvrent.
C'est un acte magnifique de préservation de la dignité.
Mais les conséquences, au réveil de Noé, elles sont sismiques. La sentence tombe et c'est une malédiction extrêmement sévère, mais il y a un détail crucial que l'analyse met en lumière. La malédiction ne tombe pas directement sur Cham ?
Non, elle tombe sur son fils, Canaan.
Exactement. Et en parallèle, une grande bénédiction est accordée à Sem et Japhet. Si on s'arrête là avec nos lunettes modernes, on se dit juste « Waouh, quelle famille dysfonctionnelle !»
C'est sûr.
Mais l'analyse du docteur Matthews révèle un mécanisme bien plus profond. En fait, c'est pas qu'un drame sous une tente. Moi, je vois ça comme une véritable anti-sèche géopolitique pour les lecteurs de l'époque. C'est une carte morale.
Le terme d'anti-sèche géopolitique est parfait. Ce récit, c'est comme un code source pour les anciens lecteurs israélites.
C'est exactement ça. Il faut se représenter des Hébreux, des générations plus tard, sur le point d'entrer dans des territoires inconnus. Cette histoire, leur fournit une grille de lecture psychologique et morale du monde politique qui les entoure. Ça leur explique pourquoi il y a cette méfiance viscérale envers les Cananiens.
Le texte leur dit en gros, la corruption de cette culture d'en face, elle date pas d'hier. Elle est enracinée dans une fracture fondamentale au tout début de notre histoire.
Voilà, et du coup, la généalogie devient un outil idéologique super puissant. Les descendants de Cham, et surtout de Canaan, se retrouvent marqués par cette suspicion théologique, alors que les descendants de Sem et Japhet bénéficiaient d'un préjugé favorable.
Tout à fait. Et le docteur Matthews prend vraiment soin de préciser une nuance vitale ici. Il ne s'agit pas du tout d'un déterminisme génétique absolu qui condamnerait chaque individu de ces nations. Pas du tout.
Non, c'est plutôt un cadre macro-historique.
C'est ça. Une façon, pour le peuple hébreu, de cartographier moralement les populations avec lesquelles il allait commercer, faire des alliances ou entrer en guerre. Et cette fameuse carte morale, elle nous propulse direct dans le chapitre 10, vers ce qu'on appelle la table des 70 nations.
Et là encore, on voit que les chiffres sont pas là par hasard. 70, c'est pas un recensement statistique fait au hasard un mardi matin.
Ah non, dans l'écosystème symbolique de la littérature biblique, le chiffre 7, et par extension ses multiples comme 70, c'est le symbole ultime de la complétude, de la totalité.
Donc le message, c'est pas « voici 70 petites tribus », c'est « voici l'intégralité de l'humanité connue ».
Le tableau est complet, ouais. Et c'est là qu'il faut vraiment désamorcer un réflexe très moderne. Quand on entend généalogie aujourd'hui, on pense directement aux tests à salivaire, à l'ADN, à la parenté biologique stricte.
J'avoue, on cherchait tous nos ancêtres sur Internet. Mais la source est très claire là-dessus. L'auteur antique s'en moquait complètement de l'ADN. Cette arborescence, elle est construite sur des mécanismes ethno-linguistiques, géopolitiques et ethnographiques. Les liens du sang sont secondaires.
Voire totalement marginaux. Ce qui compte vraiment, c'est de montrer les alliances politiques, les partages de territoires et les sphères d'influence culturelle. Et l'analyse de Matthews donne des exemples flagrants qui illustrent ça à merveille.
Ah oui, l'exemple de Mitzrayim.
Oui, on lit que le personnage Mitzrayim a engendré tel ou tel groupe. Mais Mitzrayim, c'est pas un bonhomme, c'est carrément le mot hébreu pour désigner l'Égypte entière, la Haute et la Basse Égypte.
C'est fou. Ou alors, quand on lit que Canaan a engendré Sidon. Mais Sidon, c'est une métropole phénicienne majeure, un port de commerce géant. En fait, on est littéralement en train de lire le registre des affaires étrangères de l'Antiquité, juste maquillé en arbre généalogique.
C'est tout le génie de cette forme littéraire. Et c'est ce qui rend l'observation du docteur Matthews si pertinente sur la structure de ces textes. Il explique qu'il y a des outils différents pour des travaux différents. Dans l'Antiquité, on utilisait principalement deux formats, les généalogies segmentées et les linéaires.
Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. C'est pas juste une question de style, c'est un vrai outil politique. La généalogie segmentée, c'est celle du chapitre 10. Ça ressemble à un vaste réseau. On prend un ancêtre et on déploie toutes les branches en même temps pour montrer comment les nations se ramifient et couvrent le territoire.
C'est la fameuse carte diplomatique, en gros.
Voilà. Alors que la généalogie linéaire, qu'on va retrouver au chapitre 11, elle fonctionne comme une flèche. On élague toutes les branches sur les côtés pour garder qu'un seul nom par génération.
Et le but de ce mécanisme, historiquement, c'était d'établir une légitimité incontestable. C'est l'équivalent antique d'une revendication royale au trône, quoi.
Et donc, l'auteur utilise ce format linéaire pour tracer une route, mais droite comme un laser, qui part de Sem, traverse les siècles et atterrisse précisément sur Terach, le père d'Abraham. Ça pose les bases de tout le reste du récit biblique.
C'est une construction millimétrée. Mais au-delà de la forme, il y a un truc énorme. Un gigantesque spoiler, une anomalie temporelle que Matthias appelle une dyschronisation.
Ah, ce passage m'a retourné le cerveau. Le chapitre 10 dresse le tableau d'un monde où les 70 nations sont déjà éparpillées sur le globe. Le texte dit noir sur blanc qu'elles vivent sur leur terre et parlent déjà leur propre langue.
Ouais, le résultat est donné avant l'événement déclencheur.
C'est ça, on voit la diversité complètement achevée, et juste après ? On tourne la page, on arrive au chapitre 11, et là, le narrateur nous sort calmement. la terre entière avait une seule langue et les mêmes mots.
Psychologiquement, pour le lecteur antique, c'est un vrai choc narratif.
Mais pourquoi divulgâcher la fin comme ça? Pourquoi montrer les conséquences avant même de raconter la cause? Spectaculaire, c'est-à-dire la tour de Babel.
Ben, c'est loin d'être une erreur de montage. C'est un choix rhétorique d'une efficacité redoutable. En montrant d'abord les faits, une humanité diversifiée et florissante, l'auteur manipule nos attentes. Le lecteur s'émerveille devant cette riche tapisserie au chapitre 10.
Et au chapitre 11, bam, on lui tire le tapis sous les pieds.
Exactement. Il révèle la sombre vérité. Cette belle diversité n'est pas née d'une joyeuse exploration pacifique. Elle est le fruit d'un traumatisme, d'une rébellion si arrogante qu'elle a nécessité une intervention divine pour morceler tout ça.
Ça souligne de façon tellement dramatique l'incapacité humaine à gérer le succès, en fait.
Tout à fait. Ce mécanisme prouve que la rébellion est inévitable. Malgré le nouveau départ avec Noé, l'humanité replonge dans la même quête de pouvoir qu'avant le déluge. Et ça crée une tension narrative qui rend l'introduction d'Abraham, juste après, absolument vitale.
Parce que le monde s'est brisé lui-même et que la grâce divine devient la seule issue de secours.
C'est exactement ça.
Alors, plongeons dans cette fracture originelle, le chapitre 11, la tour de Babel. L'analyse met en lumière un élément qu'on banalise trop souvent, je trouve. L'ambition purement technologique de l'entreprise. Pour nous, construire avec des briques, c'est hyper banal. Mais le texte insiste lourdement. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Ils utilisent des briques cuites et du bitume comme mortier.
Et cette précision sur les matériaux, elle est tout sauf anodine. Pour les lecteurs israélites, la roche est partout en Canaan. On ramasse des pierres, on bâtit, c'est naturel. Mais en Mésopotamie, dans la plaine de Shinar où ça se passe, il n'y a pas de pierres.
Donc l'homme doit synthétiser de toutes pièces son propre matériau de construction.
Voilà. Cuire des briques au four à grande échelle pour créer une ziggourate, à l'époque, c'est le summum de la haute technologie.
C'est carrément l'intelligence artificielle de l'Antiquité, quoi. En lisant l'analyse, je pouvais pas m'empêcher de voir ces constructeurs comme la toute première start-up monopolistique de l'histoire. Ils maîtrisent une technologie de rupture, la brique cuite et le bitume, et au lieu d'améliorer le monde, ils s'en servent pour forcer une homogénéité globale. Leur produit phare, c'est un monopole basé sur l'ego pur.
Et la déclaration d'intention des bâtisseurs valide totalement cette analogie. Il n'y a aucune vocation spirituelle dans leur projet. Leur mantra est clair. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. L'obsession, c'est pas d'honorer le divin, c'est de sécuriser leur renommée.
Ça fait d'ailleurs écho à l'arrogance des guerriers du chapitre 6.
Exactement.
Et c'est une rébellion ouverte contre le business plan d'origine. Le mandat répété à Noé citait « Multipliez, remplissez la terre, dispersez-vous ». Eux, ils font l'exact opposé. Ils se disent « On centralise tout, on homogénéise les pensées, on reste ici et on érige cette gigantesque tour pour dominer l'horizon. »
Et la ziggourate, c'est vraiment l'incarnation architecturale de cette centralisation forcée. Ces tours massives étaient conçues comme des montagnes artificielles, des portées des dieux. L'ambition, c'est d'imposer l'ordre humain au cosmos.
C'est fou d'arrogance. Et pour contrer ça, l'auteur biblique déploie une structure littéraire brillante que le docteur Matthews décortique, le chiasme.
La fameuse structure en miroir en forme de X.
C'est ça. Un mécanisme qui fait monter la pression, étape par étape, jusqu'à un point de bascule centrale, et ensuite faire redescendre à l'action en inversant tout.
Et narrativement parlant, le sommet de ce chiasme se trouve au verset 5. Les bâtisseurs déploient une énergie titanesque, montent de plus en plus haut avec leurs briques synthétiques. L'ascension est grandiose, censée percer les cieux. Et là, au sommet de la structure littéraire, le texte lâche « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour ».
J'adore ce passage. L'ironie est juste spectaculaire. C'est l'équivalent littéraire d'un immense éclat de rire cosmique. Les humains construisent le monument le plus massif de l'histoire, la fierté absolue de leur civilisation. Et à l'échelle divine, ben, c'est tellement microscopique que Dieu est obligé de descendre et de plisser les yeux pour réussir à la voir.
C'est clair. Tout cet effort orgueilleux est ridiculisé en une petite phrase. Et la déconstruction de cet orgueil, elle s'arrête pas là. L'auteur encadre le récit par une inclusio, une parenthèse narrative implacable. L'histoire s'ouvre sur une humanité unie par une seule langue, et paf, elle se referme brutalement sur une cacophonie totale et une dispersion géographique.
Et il cimente cette déconstruction par un jeu de mots assez assassin, non ?
Ouais, Babel, qui pour les Babyloniens signifiait la majestueuse porte des dieux, l'auteur hébreu le rapproche du verbe Baalal, ce qui veut dire confondre, embrouiller, faire un gâchis énorme.
Donc le centre névralgique de la fierté technologique humaine est rebaptisé capitale de la pagaille. C'est un démantèlement complet.
Un démantèlement qui détruit physiquement leur capacité à coopérer pour le mal. La fausse unité vole en éclats.
Et c'est là qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Parce qu'à première vue, on pourrait se dire « Ouais, c'est juste une punition vindicative. Dieu voit les humains s'amuser avec leurs nouveaux jouets technologiques et bam, il le casse. » Mais l'analyse de Matthew souligne que c'est bien plus qu'une simple claque punitive. C'est le coup d'envoi d'un plan de rédemption gigantesque.
Même les éléments les plus sombres y jouent un rôle, ouais. Comme l'empire de Nimrod, mentionné dans la généalogie.
Nimrod, c'est un cas d'étude fascinant d'ailleurs.
Ah oui. Dans la Table des Nations, il est décrit comme un « vaillant chasseur devant l'Éternel ». Dans d'autres contextes, ça pourrait presque être un compliment. Mais Matthews insiste, l'évaluation ici est profondément négative. Nimrod, c'est le prototype du tyran impérial. Un écho direct à la violence d'avant le déluge.
Ce qui est super logique géopolitiquement, était quoi on attribue la fondation des grandes métropoles qui deviendront les pires cauchemars d'Israël. Babylone, évidemment, mais aussi Ninive, le cœur de cet empire assyrien si sanguinaire. On parle des pires superpuissances de l'Antiquité.
Pourtant, la vision théologique, c'est que même ces empires menaçants sont absorbés dans un dessein supérieur. La dispersion de Babel, c'est pas une fin en soi, c'est un mécanisme de sauvetage. L'humanité tentait de forger une uniformité étouffante.
Et ça, c'est le point fondamental que la lecture populaire rate presque tout le temps. Le péché de Babel, c'est pas d'avoir inventé la brique ou d'aimer l'architecture. Le péché, c'est l'homogénéité forcée.
L'écrasement de la différence.
Exactement. Si je reprends ma petite analogie de la Silicon Valley, le problème, c'est ce monopole totalitaire qui écrase toute différence au profit d'une seule et unique vision du monde. La dispersion divine, la confusion des langues, c'est carrément une loi anti-monopole. Dieu démantèle le conglomérat pour restaurer un écosystème décentralisé.
C'est très bien vu.
La diversité des cultures et des langues, c'est pas une malédiction, c'est la stratégie de Dieu pour forcer l'humanité à accomplir sa mission d'origine, explorer et remplir la terre de ses mille nuances.
La diversité, c'est pas le problème, c'est la solution. Et la preuve la plus éclatante de ça, dans l'analyse théologique globale, c'est la façon dont ce récit trouve sa conclusion bien plus tard dans le Nouveau Testament. Le docteur Matthews fait un pont direct entre l'éclatement de Babel dans la Genèse et l'événement de la Pentecôte dans le chapitre 2 du livre des Actes.
C'est le moment où la fracture des langues trouve enfin une résolution, mais pas du tout comme on pourrait s'y attendre.
Non, pas du tout. Lors de la Pentecôte, Jérusalem grouille de pèlerins venus de tous les horizons. D'ailleurs, l'auteur dresse une liste de nations qui est un miroir direct de la table des 70 nations de Genèse 10.
C'est clair, le parallèle est voulu.
Et lorsque l'Esprit est donné aux disciples, qui sont de modestes Galiléens, comment le miracle opère-t-il? La solution divine pour réparer Babel, c'est pas d'effacer les langues et de créer un espéranto céleste que tout le monde serait obligé de parler. Ça détruirait la diversité. Le miracle, c'est que les auditeurs, qui viennent de dizaines de cultures différentes, entendent les disciples parler dans leur propre langue maternelle.
C'est une symétrie absolument parfaite. À Babel, l'orgueil humain a forcé Dieu à utiliser la diversité linguistique comme un frein à la tyrannie. Et à la Pentecôte, la grâce divine utilise cette même diversité linguistique comme vecteur de l'unité.
On ne force pas les gens à s'assimiler à une culture unique pour faire partie du plan. Le plan vient à eux dans leur propre langue.
L'unité est retrouvée non pas dans l'homogénéité d'une tour de briques, mais dans la compréhension mutuelle. C'est magnifique.
La boucle est bouclée. Et la structure littéraire de ces chapitres, depuis la vigne de Noé jusqu'aux briques de Babel, prouve que l'auteur maîtrise parfaitement son sujet. Chaque outil narratif, que ce soit les généalogies linéaires pour tracer la voie d'Abraham ou les chiasmes pour ridiculiser l'orgueil, sert à démontrer une chose. L'humanité tend naturellement vers la centralisation du pouvoir, mais la véritable harmonie, elle, réside dans une diversité orchestrée.
Quand on fait un pas en arrière pour regarder tout ça, le chemin parcouru est juste vertigineux. On commence avec une dispute familiale autour d'une vigne qui sert d'alibi pour coder la carte géopolitique de tout le Proche-Orient antique. Ensuite, on traverse une arborescence de nations qui divulgue la fin de l'histoire pour mieux nous préparer au choc de la rébellion.
Ouais, on assiste à l'ascension et à la chute pathétique du tout premier monopole technologique.
Exactement. Pour atterrir sur cette révélation que la diversité n'est pas une erreur de parcours, mais le but même de l'histoire.
L'architecture cachée derrière ce qu'on croyait être une simple bureaucratie d'archives est stupéfiante. Et ça laisse une réflexion hyper piquante pour notre époque, je trouve.
Comment ça, Jules ?
L'analyse de Babel nous montre une humanité prête à utiliser la technologie de pointe de son temps, la brique de synthèse, pour concentrer le pouvoir, forcer l'unité et écraser la diversité au nom d'une pensée unique. Aujourd'hui, on ne fuit plus de briques dans la plaine de Shinar pour atteindre les cieux.
Ça, c'est sûr.
Mais on peut légitimement se demander quels sont les véritables tours de Babel du XXIe siècle. Quand on observe, les algorithmes globaux, les méga-plateformes technologiques, ces monopoles numériques qui tentent par tous les moyens d'homogénéiser les comportements humains, de lisser les pensées sous le noble prétexte de connecter le monde, on assiste à la même ambition.
L'hyperconnexion forcée et uniforme.
Exactement. Et si cette tentative frénétique créait juste sous nos yeux une nouvelle forme de confusion silencieuse, un brouhaha numérique perpétuel qui, au lieu de nous unir, nous fragmente et nous isole peut-être encore plus radicalement qu'une simple différence de langage.
C'est un parallèle fascinant.
C'est fou de penser que derrière chaque liste de noms anciens jugés ennuyeuses, ou même lorsqu'on clique machinalement sur « accepter » face aux conditions d'un géant du web, ce sont les mêmes mécanismes de pouvoir et de diversité qui sont à l'œuvre. L'architecture est toujours là. Il suffit juste d'apprendre à la lire.